commence par le journal de Claire Flochel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Vincent Lambert va être autopsié aujourd'hui au lendemain de sa mort. Une enquête est ouverte à Reims. Explication dans ce journal.
François de Rugy, sous pression, mais pas de démission. Le ministre de l'écologie est maintenu à son poste.
Il promet de rembourser chaque euro contesté si les abus sont avérés. Et puis en Turquie, des attaques contre des Syriens font craindre l'embrasement à Istanbul. Reportage à la fin de ce journal. L'arrêt de ces traitements avait débuté en début de semaine dernière, plus de 8 jours après. Vincent Lambert est donc mort hier matin au CHU de Reims. Il se trouvait dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008. Son état de santé a déchiré, sa famille engendrait de nombreuses procédures. Le procureur de Reims annonce le lancement d'une enquête avec un objectif bien précis. Florence Turme.
Dès l'annonce de l'arrêt des traitements par le médecin du centre hospitalier de Reims, les parents de Vincent Lambert avaient déposé une plainte pour tentative d'homicide avec préméditation. Ils parlent désormais de crime d'État et c'est dans ce contexte, marqué par des années de procédures judiciaires, que le procureur de la République de Reims a décidé d'ouvrir cette enquête la plus neutre possible, explique Mathieu Bourdette.
Ne pas ouvrir d'enquête aurait pu être interprété comme un soutien apporté au personnel soignant, certains ce matin ayant parlé de crime d'État. Ouvrir une enquête du chef de meurtre aurait également pu être interprété comme étant la condamnation a priori du processus déclenché dans le cadre de la loi Leonetti. L'enquête en recherche des causes de la mort est à la fois la plus neutre qui existe dans notre arsenal procédural pénal et celle qui permet de procéder aux investigations utiles et de parvenir à la manifestation de la vérité judiciaire.
Une autopsie sera ainsi pratiquée ce matin à l'Institut médico-légal de Paris où le corps de Vincent Lambert a été transféré. Autopsie impérieusement indispensable, pour reprendre là encore les termes du procureur. Les analyses toxicologiques permettront de vérifier quels ont été les produits utilisés dans le processus d'accompagnement de fin de vie de Vincent Lambert et d'écarter la présence d'une substance létale qui n'entrerait pas dans le cadre prévu par la loi Claeys-Leonetti. La justice prend en l'occurrence les devants face à une éventuelle plainte pour meurtre qui pourrait conduire ultérieurement à l'exhumation du corps.
Vincent Lambert est devenu malgré lui le symbole du débat sur la fin de vie en France. Débat toujours très vif pour ceux qui souffrent d'un handicap très lourd avec toujours ces mêmes questions. Dans quelle mesure un état végétatif justifie l'arrêt des soins? Qui doit prendre une telle décision? Régis Aubry est chef du service des soins palliatifs au CHU de Besançon, ancien président de l'Observatoire national de la fin de vie. Pour lui, chaque patient en état végétatif est dans une situation unique et l'arrêt des soins ne peut pas être systématique.
Cette histoire a quand même montré que des personnes qui sont atteintes, non pas d'une maladie grave, mais d'un handicap extrême, comme Vincent Lambert, posent des questions tout à fait spécifiques. C'est-à-dire que la décision d'arrêt des traitements qui maintiennent en vie, en l'occurrence la nutrition et l'hydratation, ça fait passer une personne du statut de vivant au statut de personne en fin de vie. C'est un peu différent d'une personne qui est atteinte d'une maladie grave évolutive. Il faut donc éviter deux extrêmes ou deux écueils. Le premier, ça serait de considérer qu'au seul motif qu'une personne est en état végétatif chronique, on peut arrêter les traitements et la faire mourir. Ça serait irrespectueux de la notion même de personne. Mais le deuxième écueil, c'est l'inverse. C'est-à-dire au seul motif qu'une personne est en état végétatif chronique, elle ne pourrait pas accéder à des droits qui sont pourtant les siens, les droits de décision d'arrêt de traitement. Je trouve que c'est un défi qui a été posé, cette situation de Vincent Lambert et les situations apparentées, si je peux dire les choses comme ça, doivent nous amener dans le champ du système de santé et des professionnels de santé à réfléchir à ne pas provoquer de situations comme celle-ci. Comment éviter que la médecine les provoque, ces situations? On ne peut pas continuer avec une médecine qui concourt à fabriquer des situations de vie qui ne sont que des souffrances.
Régis Aubry, chef du service des soins palliatifs au CHU de Besançon. Un nouvel épisode et nouvelle révélation dans l'affaire de François de Rugy. Mediapart publie encore un article, on va y revenir dans un instant avec Rosalie Lafarge. En attendant, le ministre de l'écologie reste au gouvernement. Il a été appelé à s'expliquer hier dans le bureau du Premier ministre sur ses dîners organisés quand il était président de l'Assemblée nationale, sur les travaux dans son appartement de fonction à son ministère aussi. Il sauve donc son poste pour l'instant, Rosalie Lafarge.
La République exemplaire ne fera pas tomber des têtes pour l'exemple. Voilà le message envoyé entre les lignes par Édouard Philippe. Le Premier ministre et son ministre de l'écologie ont échangé longuement et ils sont convenus ensemble, nous dit-on, de la nécessité de répondre à toutes les questions que se posent légitimement les Français. Comme il le répète depuis le début de cette affaire, François de Rugy l'assure, il comprend l'émotion suscitée par ces révélations et il s'engage à rembourser chaque euro éventuellement contesté. Mais contesté par qui ? D'abord peut-être par la déontologue de l'Assemblée nationale, qu'il a lui-même nommé et qui pourrait devoir faire toute la lumière sur les dîners Omar et Grand Cru du couple de Rugy. Le président actuel de l'Assemblée, Richard Ferrand, a missionné le secrétaire général de l'Assemblée nationale et de la présidence pour mener ces vérifications. Il précise également que le successeur de Nicolas Hulot sera invité dans ce cadre-là à s'expliquer dans les prochains jours. Dans le même temps, à la demande de Matignon, une inspection doit rapidement débuter pour cette fois s'assurer que les travaux entrepris dans les appartements de fonction du ministre sont conformes au respect des règles et au principe d'exemplarité. L'exécutif espère ainsi éteindre l'incendie déclenché par les révélations de Mediapart ou au moins le circonscrire. Mais déjà, une nouvelle allumette est lancée. Selon le site d'information en ligne, François de Rugy est actuellement locataire d'un appartement près de Nantes. Un appartement qui serait à loyer social préférentiel.
François de Rugy assure que si c'est vrai, il n'en a lui-même jamais eu connaissance.
7h06 sur France Culture, la suite de votre journal Claire Flochel. La déception des familles de parents d'enfants nés avec des malformations au bras. Hier, les autorités sanitaires ont présenté les conclusions de l'enquête menée depuis plus de 8 mois.
Résultat, il n'y aura pas de recherche sur les cas de bébés nés dans les départements de l'Ain et de Loire-Atlantique, mais les experts promettent de nouvelles investigations sur le cluster du Morbihan. Les explications de Lisa Guyenne.
Après plusieurs mois d'enquête, les experts ont d'abord décidé de ne retenir qu'un seul cluster, celui du Morbihan, alors qu'en Loire-Atlantique et dans l'Ain, d'autres familles sont aussi concernées. Et les explications avancées par le comité n'ont pas convaincu Emmanuelle Amard, directrice du registre des malformations en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les cas de 2009, 2010 et 2011 ont été enlevés des comptes dans l'Ain, au motif que à cette époque-là, il n'y avait pas de registre et on ne peut pas mesurer s'il n'y avait pas de registre. Mais ajoutons, si d'aventure on trouvait une cause pour les cas de Guidel, alors on irait chercher dans l'Ain aussi s'il ne s'est pas passé la même chose. Ça n'a pas de sens.
Par ailleurs, le comité promet de nouvelles investigations dans le Morbihan, mais là aussi, tout reste très vague, trop vague pour Samuel Bernard, le papa d'une petite fille de 6 ans, née avec une malformation à Guidel.
Moi, j'attendais peut-être aujourd'hui des pistes de travail plus précises, voilà, puisqu'il y avait des éléments qui avaient été liés, notamment liés aux causes environnementales, et on pensait qu'aujourd'hui, ils nous annonceraient peut-être des produits, des molécules, ou des pistes peut-être plus larges concernant l'eau, l'air ou le sol qui allaient être investiguées, et on n'a pas eu forcément de précision à ce niveau-là, donc c'est vrai que c'est un peu décevant. Ouais.
Et même si l'enquête est relancée, les chances de comprendre un jour les causes des malformations sont désormais infimes. Isabelle Témence-Grassin est maman d'une fillette de 6 ans, née elle aussi à Guidel.
On craint un petit peu quand même qu'ils doivent à un moment donné s'arrêter parce qu'ils ne sauront pas où chercher plus loin. Si je reprends les propos de la présidente du comité d'experts, c'était que l'imputabilité serait impossible à trouver.
Les familles prévoient une nouvelle réunion de leur comité à la rentrée prochaine.
Lisa Guyenne. Direction la Turquie maintenant, où l'hostilité grandit envers les réfugiés syriens. Il y a une dizaine de jours, une foule s'est attaquée à des commerces tenus par des Syriens à Istanbul. La Turquie accueille plus de 3,5 millions de Syriens sur les plus de 5 000 qui ont fui leur pays depuis le début du conflit en 2011 et la cohabitation est de plus en plus difficile. À Istanbul, un an de l'horreur.
Mahmoud fait frire ses falafels comme si rien n'avait changé. Mais ce restaurateur syrien, réfugié à Istanbul depuis 8 ans, reconnaît que ces dernières semaines, il n'est pas tranquille. Les violences qui ont visé des commerces syriens de la ville inquiètent ce parfait turcophone.
Je sais que 80% des Turcs ne me veulent pas de mal, mais il y a toujours ces 20% qui nous considèrent comme des ennemis. Il suffit d'un problème avec un seul Syrien pour qu'ils détestent tous les Syriens. Mais moi, je paye des impôts. Et qui en profite? Les Turcs. Personne ne vit ici gratuitement.
Pourtant, le discours anti-syrien convoque généralement des arguments économiques. On les accuse de voler le travail des Turcs alors que le chômage grimpe, de contribuer à l'inflation. Issa, vendeur turc de kebab du quartier historique de Fatih, ne cautionne pas les violences. Mais il veut que son pays renvoie tous les Syriens chez eux.
Quand j'ai voulu ouvrir un nouveau restaurant, j'ai eu toutes les peines du monde à obtenir les autorisations. Pourtant, je vois tous les jours de nouvelles enseignes syriennes. J'ai l'impression qu'on les favorise.
Abdallah, un Syrien de 23 ans qui étudie à Istanbul, entend souvent ce genre de discours. Mais il dit s'y être habitué et considérer les violences comme des incidents isolés. Il préfère rester optimiste.
Je ne veux pas croire que les Turcs qui s'en prennent à nous sont racistes. Je veux croire qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe en Syrie. Même si certains généralisent et rejettent tous les Syriens, je refuse de faire pareil avec les Turcs, dont je n'oublierai jamais la bonté.
Comme beaucoup de Syriens, Abdallah confie même qu'il souhaite rester en Turquie, même quand la guerre dans son pays sera enfin terminée.
Reportage à Istanbul, signé Anne Andlauer. La météo de ce vendredi, ciel variable sur la majeure partie du pays avec des orages en perspective près des frontières du nord-est. Le soleil va s'imposer au fil de la journée. Les températures sont comprises ce matin entre 14 et 23 degrés.